Par Michael Ponge. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 7h10 à Mexico, une heure de plus à Port-au-Prince. Entre espoir et méfiance, on est au Mexique aujourd'hui. Espoir pour les milliers de migrants coincés dans le pays concerné par la réforme de l'immigration de Joe Biden. Méfiance en Haïti, où les expulsions des États-Unis vers Port-au-Prince se poursuivent malgré le moratoire du nouveau président américain. L'immigration, dont vous nous parlez aussi dans une quinzaine de minutes, Benoît Ferrand, dans votre journal de la première, cette fois du côté de la Guyane.
Avec, bonjour Michael, avec les derniers migrants syriens ou cubains encore présents sur la pointe Buzaret à Cayenne, des migrants qui devront en principe quitter les lieux dès aujourd'hui.
À tout à l'heure Benoît, et avant cela on ira du côté de Cuba où une chanson fait réagir les autorités. Bienvenue à tous. Dossier ô combien emblématique des années Trump, l'immigration, dossier prioritaire pour le nouveau président des États-Unis. On en a déjà beaucoup parlé ici. À peine entré dans le bureau ovale, Joe Biden s'y attaquait à coups de décret avant que les démocrates ne présentent la semaine dernière la loi qui doit ouvrir la voie à la naturalisation de 11 millions de migrants sans papier. Des premiers pas salués par le grand voisin du Sud, le Mexique, où les demandeurs d'asile des pays latino-américains devaient jusque-là patienter au pied du mur de Donald Trump. C'est le dossier d'Alix Sardi.
Juan Carlos Valdés est guatémaltèque. Il y a un an, il a tenté d'émigrer aux États-Unis, mais il s'est retrouvé bloqué au Mexique. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir lui a rendu espoir.
Estoy en Tehuacán. Quiero trabajar un mes más
para. Je suis à Tehuacán, au centre du Mexique. Je vais travailler là encore quelques semaines, puis j'irai à la frontière nord pour déposer une demande d'asile aux États-Unis. Leur système migratoire était complètement fermé au centre américain jusqu'ici. Ma famille m'a plusieurs fois supplié de rentrer au pays, mais au fond d'eux, ils ont gardé l'espoir que j'arrive enfin à rentrer aux États-Unis et que notre avenir soit meilleur.
Sous Trump, le système migratoire américain a effectivement été mis à l'arrêt. Sarah Pierce est analyste au sein de l'ONG Migration Policy Institute.
Pendant sa présidence, Donald Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir pour freiner l'immigration illégale, mais aussi l'immigration légale. C'est du jamais vu. Il a réussi à sceller hermétiquement la frontière sud du pays, pas avec un mur physique comme il l'avait promis, mais avec une quantité de nouvelles règles qui ont eu pour conséquence de mettre le système d'asile à l'arrêt. Il a aussi mis l'accent sur la traque des illégaux dans le pays, ce qui a créé un climat de peur pour les 11 millions de son papier aux États-Unis ces quatre dernières années.
À son arrivée au pouvoir, Joe Biden a rapidement mis fin aux aspects les plus cruels de la politique migratoire de son prédécesseur.
L'administration de Biden a beaucoup d'autres problèmes à régler en priorité et nous sommes nombreux à avoir été agréablement surpris de la rapidité avec laquelle il a agi sur le plan migratoire. Dès son premier jour au pouvoir, Biden a signé toute une série de décrets. Il a mis fin à plusieurs inventions de Donald Trump, comme le programme Rester au Mexique et le Travel Ban. Il a aussi mis le holà à la traque des immigrés sans histoire.
Le programme Rester au Mexique dont parle Sarah Pierce obligeait les demandeurs d'asile à attendre pendant des mois, voire des années, l'examen de leur dossier du côté mexicain de la frontière, là où ils sont extrêmement vulnérables face au crime organisé. Raúl Hernández en a fait les frais. Ce Mexicain a été expulsé des États-Unis après y avoir vécu illégalement pendant plusieurs années. Alors qu'il se trouvait de nouveau du côté mexicain de la frontière, il a été kidnappé.
J'ai été séquestré par le crime organisé. Un de leurs hommes est venu me voir. Comme j'avais un petit sac à dos, il a pensé que je m'apprêtais à traverser la frontière clandestinement par mes propres moyens. L'ambiance s'est tendue, il m'a dit « Appelle ton frère !» et il lui a dit que si ma famille voulait me revoir, il faudrait payer une rançon de 3 500 $. C'est le prix pour passer sur leur territoire. Ils étaient 7, je n'ai rien pu faire d'autre que de me laisser emmener. Ils m'ont gardé pendant 2 jours dans une pièce avec 10 autres personnes. J'ai eu peur qu'après le premier paiement, ils demandent plus d'argent. J'ai craint le pire. Heureusement, ils ont fini par me relâcher après avoir reçu la rançon.
Joe Biden a annoncé que les 25 000 demandeurs d'asile coincés par le programme Rester au Mexique seraient autorisés enfin à entrer aux États-Unis. Mais pour les suivants, comme Juan Carlos, qui espère bientôt pouvoir déposer une demande d'asile, la frontière reste close jusqu'à nouvel ordre.
So yes, it definitely
Il y a un vrai risque que l'arrivée de Biden au pouvoir suscite l'espoir de nombreux migrants qui regardent vers les États-Unis. Les passeurs ne vont pas se priver de dire que ce changement de politique augmente les chances des migrants d'y entrer. Mais pour la nouvelle administration, un afflux massif à la frontière sud serait une catastrophe politique et logistique. Actuellement, le système n'est pas équipé pour gérer cela, encore moins avec la pandémie. Biden essaye donc d'avoir un message très clair. Ce n'est pas parce qu'il répare les torts de Trump que la frontière est ouverte à tous.
Alex Hardy, Mexico, RFI.
Et la preuve, poursuivons sur ce dossier de l'immigration. Avec ce qui se passe du côté d'Haïti, depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, les expulsions se poursuivent au même rythme que sous l'ère Trump, avec quelques 500 Haïtiens déjà renvoyés dans le pays, parmi lesquels un homme qui pourtant n'est pas Haïtien, Amélie Baron, puisqu'il est officiellement apatride.
Je sens que ce qu'ils ont fait est illégal et cruel en raison de l'instabilité politique que connaît actuellement le pays.
Paul Pierilus est né de parents haïtiens dans la partie française de l'île de Saint-Martin. Quand il avait 5 ans, lui et sa famille sont partis vivre aux États-Unis. Il a aujourd'hui 40 ans et jamais il n'était sorti du territoire états-unien car il n'a aucun passeport ou document d'identité qui lui confère la nationalité d'aucun pays. Apatride, il a pourtant été expulsé en Haïti le 3 février par les agents du service migratoire des États-Unis.
À chaque étape, je demandais aux agents qui a autorisé mon expulsion, quel document avez-vous disant que je suis un citoyen d'Haïti ? Ils me disaient, soyez un gentleman, montez dans l'avion, on vous montrera alors les documents de voyage. Je suis monté dans l'avion et j'ai encore demandé, où sont les documents ? Oh, quand tu seras en Haïti, on te les montrera. Sans arrêt, j'ai demandé, où sont les documents ? Où sont les documents ? On me disait, tu verras plus tard, en Haïti. Tu es haïtien, tu es haïtien, tu es haïtien. Nous n'avons pas à te montrer les documents. Et en fait, personne ne m'a jamais montré les documents.
Son avocate Nicole Phillips dénonce l'illégalité de ce renvoi.
Certes, la constitution haïtienne spécifie que l'on est haïtien si on a au moins un parent haïtien. Mais il y a toute une procédure qui doit être suivie avant de devenir un citoyen haïtien. Paul n'est pas un citoyen haïtien. L'ambassade haïtienne aux États-Unis a confirmé cela. Donc, que l'agence d'immigration américaine prétende le contraire, ou simplement s'en fiche, cela constitue une violation des lois internationales et des droits de Paul en tant que personne apatride.
Paul Pierilus s'est retrouvé du jour au lendemain en Haïti où il n'avait jamais été et où il ne connaissait personne, dans un pays en proie à une crise politique intense, dans une capitale qui vit au rythme des manifestations, un choc comparé à son quotidien new-yorkais.
C'est un peu stressant car il y a tant d'incertitudes au quotidien, des choses auxquelles on ne pense pas aux États-Unis ou en Europe, comme l'électricité, qu'on a 24 heures sur 24, que l'on considère comme acquise. Ici, il y a des jours où les lumières ne s'allument jamais, ou alors à n'importe quel moment. C'est stressant et frustrant de ne pas avoir la maîtrise de petites choses comme ça, que j'avais l'habitude d'avoir. Donc des aliments qui auraient dû rester frais ou congelés ne le sont plus. Je ne peux pas toujours recharger mon téléphone.
Des démarches légales ont été entreprises par ses avocats pour qu'il soit renvoyé aux États-Unis, mais Paul s'inquiète d'être condamné à rester en Haïti.
J'ai peur de ne potentiellement plus jamais revoir mes amis, ma famille, mes proches. C'est comme aller à une veillée ou un enterrement, on fait le deuil d'une personne. Aujourd'hui, je fais le deuil de quantité de personnes en même temps, c'est amplifié. Des choses simples comme dîner avec sa famille, les repas du dimanche, Noël. Tout ça vient à mon esprit et je me dis que ça pourrait ne plus être possible, comme aller à mon église pour Pâques.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et en fin de semaine dernière, des élus du Congrès américain ont appelé l'agence de l'immigration à mettre un terme à ce qu'ils qualifient d'expulsion ciblée. Il est 8h et presque 19 minutes à Washington. Les États-Unis et le Covid, bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
C'est à la une de la presse américaine. Le pays se prépare à passer le cap des 500 000 morts.
Oui, c'est à la une du Washington Post. En février 2020, écrit le journal, la pandémie a tué quelques dizaines de personnes aux États-Unis. Un an plus tard, la population d'une ville comme Atlanta ou Sacramento a été anéantie par le Covid-19. Un chiffre presque abstrait, tant il est difficile de s'imaginer ce que cela représente en pertes humaines. Le Washington Post de Michael donne un exemple pour mieux se dire l'étendue de cette catastrophe sanitaire. Un demi-million de personnes, eh bien, ce serait comme une caravane d'autocars longue de 150 kilomètres si on compte 50 personnes par bus. C'est à peu près la distance entre New York et Philadelphie.
Les États-Unis payent en fait, Arim, le plus lourd tribut au monde.
Oui, c'est ce que souligne le New York Times en rappelant que le nombre d'Américains morts du Covid dépasse déjà celui des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Vietnam. Et comme lors de ces guerres, le Covid a causé d'énormes douleurs dans les familles américaines. Beaucoup d'entre elles ont du mal à faire le deuil de leurs proches qui ont succombé à la maladie.
Mais il existe des indicateurs encourageants, comme le rythme de vaccination. Porteur d'espoir, écoutez le docteur Fauci, le conseiller de Joe Biden sur CNN.
It depends on the level of dynamics of virus that's in the community, and that's really important.
Cela dépend du niveau auquel la dynamique du virus se maintient dans la population, et c'est très important. Si ce niveau devenait très très bas, alors je veux le voir atteindre un plancher si bas qu'il n'y aurait virtuellement plus aucune menace. Pas aucune, car on ne sera jamais à zéro, mais la menace la plus infime d'être en contact avec une personne infectée. Donc si l'on combine la vaccination de la plupart des gens dans le pays en maintenant un niveau de présence du virus très très bas dans la population, alors je crois que nous pourrons dire, pour l'essentiel, il n'est pas nécessaire de porter un masque. Mais si nous avons un niveau de contamination qui reste à 20 000 par mois, c'est bien mieux que ce que nous avons connu, mais cela reste très élevé. Je veux le voir chuter. Lorsque cela aura chuté et que l'immense majorité de la population aura été vaccinée, alors je me sentirai à l'aise pour dire qu'il faut se relâcher sur le masque, que nous n'avons pas besoin de masque.
L'immunologue Anthony Fauci, les États-Unis à rime ou Malcolm X refait la une avec une demande de réouverture de l'enquête sur le meurtre du militant afro-américain.
Oui, une demande formulée par les filles de Malcolm X à la suite d'un nouveau témoignage qui met en cause la police de New York et le FBI. En fait, il s'agit d'une lettre rédigée par un ancien policier new-yorkais juste avant sa mort. Dans ce document, l'ex-agent Raymond Wood accuse la police de New York et le FBI d'être à l'origine de l'assassinat de Malcolm X en 1965. En fait, le policier Michael, qui avait infiltré l'entourage du militant noir, a reçu l'ordre de sa hiérarchie de s'assurer que Malcolm X soit privé de ses deux gardes du corps qui devaient surveiller l'entrée de la salle de spectacle où il tenait un discours. Les gardes du corps ont été arrêtés quelques jours avant l'assassinat. Et ce nouveau témoignage est important, écrit le site d'information Axios, car des historiens et des défenseurs des droits de l'homme ont toujours douté de la culpabilité des trois hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X. Le site de la chaîne ABC publie des extraits de la lettre écrite par l'ancien policier dans laquelle il exprime ses regrets d'avoir gardé ces informations si longtemps secrètes. Je les ai portés avec un cœur lourd, a ajouté celui qui était lui-même, Michael, un Afro-Américain.
On quitte les États-Unis à rime pour le Brésil. Les cours des actions de l'entreprise Petrobras ont chuté drastiquement après la désignation par le président Bolsonaro d'un général de la réserve à la tête du géant pétrolier.
Oui, c'est à l'une du site d'information G1. Le président d'extrême droite a nommé vendredi dernier Joaquim Silva e Lula à la présidence du groupe public. Jair Bolsonaro avait critiqué auparavant les hausses récentes des prix des combustibles.
La désignation de ce général de réserve et ancien ministre de la Défense doit encore toutefois être confirmée par le conseil d'administration de Petrobras à Rim.
Exactement, et la représentante du personnel de ce conseil a déjà vivement critiqué cette décision de Jair Bolsonaro, la qualifiant d'acte présidentiel irrespectueux. Le site Poder 360 rappelle que cela fait plus de 30 ans que les militaires n'étaient pas aux commandes de Petrobras. Le journal Carta Capital, lui, s'insurge contre la présence des militaires au sein du gouvernement et des entreprises publiques. Ces militaires ont fait beaucoup de mal au Brésil et au peuple brésilien, écrit le journal, rappelant les coups d'État dans l'histoire du pays et l'impunité dont avaient bénéficié les généraux au retour à la démocratie.
Arim Lipold, merci. Je vous emmène à Cuba maintenant avec une chanson qui fait la une. La patrie et la vie, résultat de la collaboration avec des stars de rap de Cuba, mais aussi des stars en exil. Le clip a été vu plus d'1,5 million de fois en moins d'une semaine sur YouTube, ne manquant pas de faire réagir les autorités de l'île qui dénoncent, Domiti Piron, une manipulation de la mafia de Miami.
Mon peuple réclame la liberté, nous ne voulons plus de doctrine, chante l'un des membres du populaire et célébrissime groupe de reggaeton Gente de Zona dans cette chanson imaginée par Yotuel Romero avec la participation de December Bueno et les rappeurs cubains fréquemment réprimés et persécutés sur l'île El Funky et Michael Osobo. Patria Vida prend le contre-pied du slogan communiste en vigueur à Cuba depuis 1959, la patrie ou la mort, une doctrine qui doit changer selon Yotuel Romero.
Tenemos que luchar Nous devons lutter pour la patrie et pour la vie. La mort ne peut plus faire partie du changement. Nous ne pouvons plus admettre qu'un régime te donne comme seule option de le soutenir ou de mourir.
Problèmes économiques, censure et répression, toutes ces raisons qui ont mené l'artiste à s'exiler se retrouvent dans la chanson.
C'est le moment pour le monde de se rendre compte des injustices qui se passent à Cuba. Il faut en finir avec les abus du gouvernement cubain contre ses citoyens. Nous sommes maltraités depuis bien trop longtemps. Mais vous savez quoi, c'est fini, comme le dit la chanson.
Et ce message adressé directement aux autorités cubaines a fait réagir. Dirigeants, artistes, intellectuels et médias officiels défendent leur slogan historique scandé pour la première fois par Fidel Castro, la patrie ou la mort, et dénoncent une instrumentalisation de la mafia anti-cubaine de Miami, dont l'unique but est de dénigrer Cuba. Domiti Piron, La Havane, RFI.
Et on vous mettra bien sûr sur les réseaux sociaux du journal d'Haïti et des Amériques le clip donc de La Patrie et la Vie, vu plus d'un million et demi de fois. Il est 8h et quasiment 26 minutes à La Havane, 2h de plus à Cayenne.
Le journal de l'Outre-mer.
La Guyane à la une. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
Les derniers migrants encore présents sur la pointe Bouzaré doivent en principe quitter les lieux aujourd'hui.
Oui, la pointe Buzaré, c'est l'une des quatre petites pointes rocheuses qui ponctuent le littoral nord-ouest de la ville de Cayenne. Un lieu squatté, entre guillemets, depuis plusieurs mois par des migrants syriens ou cubains. Alors la plupart de ces migrants sont partis, mais il reste une trentaine de personnes, toutes désormais sous la menace d'une expulsion manu militari. Isabelle Lerouge.
Sous les tentes en bâche bleue, une trentaine de silhouettes errent encore sur le site de Buzaré. Entre de grands tas de déchets, dernier vestige du camp qui abritait environ 250 migrants il y a encore quelques semaines. Les derniers occupants, essentiellement des hommes, des Syriens, célibataires, mais aussi trois familles. Un couple avec quatre enfants, une mère célibataire et ses deux enfants et un couple seul. La plupart parlent espagnol, un souvenir du Venezuela où ils ont séjourné un temps avant d'arriver en Guyane. Vendredi soir, le tribunal administratif de Cayenne a ordonné aux derniers occupants illicites de la pointe Buzaré de quitter les lieux sous 24 heures, sous peine d'une amende de 30 euros par jour et par personne. Plusieurs réfugiés en infraction présentent déjà les amendes infligées par la police municipale. Tous sont désemparés. Demain, lundi, à 8 heures, il leur faudra partir. La mairie de Cayenne et les services de l'État ont prévenu. Ils procéderont à l'évacuation du site et à la destruction de tous les abris. Les derniers migrants de Buzaré sont inquiets. Partir, oui, mais où pourront-ils trouver refuge ?
Direction la Martinique maintenant avec un sujet plus léger. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à l'usage des pesticides, campagne qui visait surtout, évidemment, vous l'aurez compris, à tenter de se passer des pesticides, un marché bio a réuni samedi une petite dizaine de producteurs dans la commune du Prêcheur. Il y avait là des produits issus de l'agriculture dite raisonnée et puis d'autres garanties 100% bio, mais pas forcément d'ailleurs les plus faciles à écouler. Pierre-Yves Honoré.
Ce producteur est venu avec 300 kg de patates douces, mais il lui sera bien difficile d'écouler toute sa production, car le vrai bio a aussi un prix.
J'ai une famille à nourrir, j'ai cette passion à faire du bio. Le vrai bio, je le rappelle, le vrai bio, vous avez un goût indéniable. Et aussi la durée de vie des produits. Ça veut dire les concombres que vous voyez là, ou les patates, n'importe quoi, vous laissez ça sur le balcon, ça peut rester un mois, et vous le consommez sans problème. Et le goût ne change pas d'un iota, puisque tout est à la main, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, on est dedans. Nous voulons donner un produit pour la santé, mais il y a un prix à payer.
Entre agriculture biologique, raisonnée et vrai bio labellisé, le public arrive-t-il toujours à se retrouver ? En tout cas, pour que cette forme d'agriculture sans pesticides se développe, les producteurs doivent d'abord jouer la carte de l'unité.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît, à vous et aux équipes de La Première. Et à demain.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Et pour réécouter le journal d'Haïti et des Amériques, bien sûr, c'est sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio, mais aussi via nos réseaux sociaux, sur Facebook, le journal d'Haïti et des Amériques, et sur Twitter, @RFI Amérique. Édition aujourd'hui réalisée par Claude Battista, merci à lui, on se retrouve demain. Très bonne journée à tous, à l'antenne, sur l'antenne.
Autour de la question.
Caroline.